On a 17 degrés sur Québec actuellement. Couverture nuageuse. Quand même assez froid comparativement aux derniers jours. On parle d'une alternance de soleil-nuage aujourd'hui, Pascal.
Ben, à date, on est dans les nuages.
On peut se slacker sur l'alternance.
Oui, il y a un peu moins d'alternance en ce moment.
Fait que c'est des nuages. Ouais. Avec l'indice humidex, ça pourrait être une température ressentie de 25. Un ciel dégagé pour ce soir, minimum de 11 degrés. Donc, pas de pluie de prévu ce soir pour les shows au Festival d'été de Québec. C'est la bonne nouvelle. Demain, une belle journée ensoleillée avec un maximum de 26. Avec le facteur humidex, ça va être une température ressentie de 30. En soirée, ce sera nuageux avec un minimum de 18. Dimanche, des averses maximum de 28. Et en soirée, des averses minimum de 14 degrés.
Faudrait sortir la chanson « Le bonheur est dans le moteur », Yannick, pour les prochains jours, parce que j'ai l'impression que vous allez goûter à votre moteur. Vous allez être pogné dans l'habitacle de votre voiture un peu partout. Et c'est le cas. Énorme trafic direction Lévis. Accident juste avant le pont. Il n'y a pas de traversée aussi. Ça s'est senti là, dans les heures un petit peu plus importantes ce matin. Henri IV Sud, hauteur boulevard Laurier. La voie droite est bloquée. Accident. Félix Leclerc Ouest, hauteur autoroute Laurentienne. La voie droite partiellement travée. Il y a une panne. Alors, c'est un peu compliqué.
On parle de quoi dans l'actualité, cher ami?
Je vais y aller rapidement, assurément. La question des États-Unis avec le 4th of July fait jaser majorité de Canadiens qui se diraient ne plus être les bienvenue aux États-Unis, selon un sondage. C'est assez élevé, en fait, là, depuis le retour de Donald Trump, où des gens se disent pas nécessairement très bien accueillis aux États-Unis. Sinon, grève au RTC, on vient d'en parler amplement, mais les négociations sont rompues. Grève générale illimitée qui est entre les branches. Je vais te parler aussi de la ville de Québec qui aura Capital Mobilité à l'œil. On dit qu'on manque de transparence et c'est le vérificateur général qui a rendu son rapport ce matin. Donc, Daniel Rancourt de la ville de Québec, VG pour la ville de Québec, qui jase de ce rapport annuel 2024. Entre les lignes, ce qu'on a eu du côté du Journal de Québec, c'est qu'il manquerait de transparence. Ouais. Et c'est très important à mentionner, autant pour la Capitale Mobilité, la société en commandite constituée par le réseau de transport de la Capitale, les deux sont très concernés.
Ouais. Il n'y a pas d'audi en comptabilité depuis le 31 décembre 2024. Donc là, il n'y a personne qui surveille qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on leur consacre. Capitale Mobilité, c'est tes fameux à vélo. Puis, ils font aussi de la publicité et tout ça. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un organisme qui est à part de la ville.
Puis, on
que
sait qu'ils ont ajouté beaucoup, là, aussi.
Exact. Puis, il n'y a pas d'audit. On ne sait pas les dépenses. On ne connaît pas qu'est-ce qu'ils font réellement. Et si j'en crois, Claude Villeneuve, qui est conseiller à la Ville de Québec, chef de l'opposition, il dit que c'est une patente qu'on a créée pour donner des salaires à 250 000 par année. Là.
Ce qu'on surveille aussi, c'est les sports et loisirs. On dit qu'il y a certains problèmes relevés par le VG en lien avec les organismes à but non lucratif qui agissent comme partenaires de la municipalité, donc de la Ville de Québec, notamment en ce qui a trait au camp d'été. On est là-dedans en ce moment. Donc, on dit que les modalités d'application qui sont prévues à ces programmes-là de soutien financier ne seraient pas respectées dans près de 30 % des dossiers qui sont vérifiés. Je te dirais qu'on va avoir un peu plus d'informations au courant des prochaines heures. Et court bulletin, je termine avec... Je t'en ai parlé il y a deux semaines de Serge Quesnel.
Serge Quesnel.
Moi, je dis Quesnel.
C'est Quesnel.
Mais je dis Quesnel, puis il ira me le dire. D'après moi, il va me le faire comprendre assez rapidement. Mais Hells Angels, le lecteur à gages, qui était devenu délateur, qui avait eu une bonne somme pour changer d'apparence, pour aller ailleurs, pour changer de nom.
Il a tué 5 personnes. Il a rentré
en prison. C'est un homme de main des motards.
Exact. Il est rentré en prison fin 90. Il est sorti, ça fait plus de 10 ans, sous une nouvelle identité. On lui a retiré ses tatouages parce que c'était un motard qui avait des tatouages qui étaient quand même assez apparents. Et il vit parmi nous depuis 10 ans. Et là, il aurait contrevenu aux règles de sa remise en liberté. C'est un gars qui avait des problématiques d'alcool, à ce qu'on nous mentionne. Donc, c'était interdit pour lui de consommer de l'alcool. Puis, sans le dire dans l'article, là, c'est probablement ça. Il s'est fait prendre sous quelque part. Puis, on a dit, ben mon ami, tu vas retourner en prison. Et là, dans les prochaines heures ou les prochains jours, on va déterminer à savoir si on doit le remettre en liberté. Mais moi, ça m'avait marqué, ça, parce que ce gars-là avait témoigné au procès de Maurice Mom-Boucher, puis sa crédibilité avait été mise en doute par un excellent avocat de la Ville de Québec, M. Jacques Larochelle, qui avait déboulonné Quesnel en quelques secondes. Et par la suite, il y a eu un autre procès où Godasse Gagné avait livré un témoignage assez impressionnant contre Maurice Mombouché. Et Kennel était intervenu aussi. Puis il y avait eu un truc comme 500$ par semaine pendant 10-15 ans, jusqu'à temps qu'on le remette en liberté, ce qui lui donnait autour de 400 000 $ pour refaire sa vie sous une nouvelle identité. Mais Pascal, il a fait 5 meurtres. Là. Au Québec, si tu fais un meurtre, tu es passible de 25 ans minimum de prison. Lui, il en a fait 5, puis il n'a pas fait toutes ses années de prison en dedans. Là.
C'est parce qu'il est devenu délateur. Maintenant, il a 55 ans qu'il a réussi à avoir ce privilège, dit-là, entre parenthèses. C'est celui qui a été le mieux payé de l'histoire en 95 pour avoir, comme on dit, mis au trou d'autres de ses anciens collègues. Excellent livre qui est très, très dur à trouver, Ancien Testament d'un tueur des Hells Angels, qui avait été écrit par mon ancien patron. Fait que c'est une affaire que je maîtrise énormément, c'est Serge Quesnel, sauf son nom.
Oui.
Fait que j'ai bien hâte de voir ce qui va découler de cette information-là qui nous est sortie dans le Journal de Québec aujourd'hui.
All right, plein de choses à jaser avec notre prochain invité. C'est quelqu'un que j'ai régulièrement dans Marceau le soir. C'est un docteur en neurosciences. Son nom, c'est Joël Monzé. Il est avec nous. Salut, Joël.
Salut.
On parle de quelque chose que j'aime beaucoup, le fameux syndrome de Narcisse. Mm-hmm. Le narcissisme, j'ai pas tes connaissances, mais quand je regarde l'affaire Roson, je trouve ça juste hallucinant de le voir témoigner, de le voir sortir dans les corridors, continuer à se vanter, à être extrêmement souriant, alors que le gars est accusé des pires crimes que tu peux commettre, là, c'est-à-dire agresser sexuellement des gens. Et lui se considère comme au-dessus de tout ça. Devant le juge, il s'est vanté régulièrement en disant que c'était un excellent homme d'affaires, qu'il était capable de partir quelqu'un de zéro jusqu'au firmament. Il parlait régulièrement de lui à la troisième personne. Il y a d'autres dossiers là, actuellement qui sont en cours. Le dossier de Puff Daddy. Guy Turcotte aussi, qu'on avait vu passer. On parlait régulièrement, toi et moi, avec Pascal de Donald Trump. Est-ce qu'on peut considérer que ces gens-là, c'est des narcissiques? En fait, je vais te poser une question plus large, plus générale. Est-ce qu'on est tous un peu narcissiques?
Oui, et c'est normal.
OK, bon. Pascal, t'es correct.
Premièrement, on a tous envie d'être aimé pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait, pour ce qu'on dit. On va faire attention à ce qu'on fait quand on est sur Facebook ou tous les autres réseaux sociaux. On va toujours mettre nos bons coups et on va rarement parler de nos mauvais coups. On va faire attention à ce qu'on soit apprécié, comme je disais tantôt. Donc, c'est tout à fait normal. Puis, on a des blessures aussi. On a des blessures narcissiques parce qu'il y a des moments où dans notre enfance ou notre adolescence ou même notre âge adulte, on n'a pas été reconnu à notre juste valeur. Notre père, notre mère, notre prof, notre coach n'a peut-être pas vu tous les efforts qu'on faisait ou tout au moins les bonnes motivations qu'on avait pour quand on faisait peut-être des gaffes, ce qui fait que ça crée des blessures narcissiques. Donc, c'est un réflexe. Le réflexe narcissique, il est normal, ça fait partie de l'estime de soi, on veut protéger notre image. L'aspect problématique, c'est quand on commence en fait à agir avec des mécanismes d'enfant ou d'adolescent quand on est un adulte. Dans le sens que, par exemple, un enfant va vouloir jouer au super-héros entre 4 ans et 6-7 ans. Il va être Superman, super-pompier, super-infirmière, super-médecin, super-professeur. Et c'est tout à fait normal. Ça fait partie de sa construction de la personnalité. À l'adolescence, ça va revenir. Mais on appelle ça même parfois en psycho le syndrome de la toute-puissance infantile. C'est normal.
Ouais.
Ça amène même les adolescents à être très téméraires et à prendre des risques nécessaires pour leur développement, mais peut-être parfois problématiques en tant que tel.
Je veux comprendre c'est quoi une blessure narcissique, parce que là, moi, je suis dans le studio, je ne sais pas c'est quoi une blessure narcissique. Je pense que les auditeurs sont dans leur voiture, ne le savent pas non plus. Qu'est-ce qui pourrait nous être arrivé dans notre enfance qui pourrait être considéré, selon toi et tes connaissances, bien entendu, comme étant une blessure narcissique qui pourrait avoir un impact sur nous en tant qu'adultes?
Mais par exemple, tu as fait un gros effort pour préparer un examen, mais tu te plantes dans ton examen. Donc, personne n'est fautif, mais c'est ton image qui est touchée parce que tu as honte d'avoir eu un échec. Tu as peut-être un adulte qui s'est moqué de toi, qui a fait une blague de mon oncle, et toi, tu l'as pris personnel parce que ça t'a blessé, ce qu'on a dit éventuellement. Les ruptures amoureuses, la plupart du temps, ce sont des ruptures narcissiques. Et c'est pour ça, parfois, que dans des réactions qu'on peut voir chez les uns comme les autres, suite à une rupture amoureuse, on a parfois des comportements complètement irrationnels, voire criminels chez certaines personnes, parce que c'est extrêmement violent, en fait, une blessure narcissique, surtout si on n'a pas une bonne estime de soi qui a été construite avec les années.
Est-ce que les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents puis ensuite adoptés, est-ce que ça peut être une blessure narcissique?
Je dirais, ça va dépendre l'âge à laquelle ils ont été abandonnés. Si c'est en très bas âge, probablement moins. Mais ça va surtout dépendre de plein de choses. Comme je parlais tantôt, l'estime de soi, ça se construit avec toutes les belles petites réussites qu'on fait au quotidien. Si un adulte reconnaît la singularité d'un enfant qui a été adopté et reconnaît la belle personne qu'il est, le rassure que c'est pas parce que tu es, c'est pas à cause de toi que tes parents t'ont abandonné, mais c'est vraiment parce que eux vivaient de la détresse et on t'a choisi. On t'a vraiment choisi, tu sais. Donc, la famille d'accueil, un professeur peut faire la même chose, peut dire, écoute, je sais que c'est pas facile pour toi à la maison, mais toi, je t'aime, puis t'es vraiment important pour moi, t'es un élève que je trouve incroyable dans ma classe. Ça peut être la même chose pour un coach de sport ou un coach artistique qui peut, comment dire, montrer à la personne qu'elle vaut quelque chose.
Un ami proche de moi, je pense qu'on avait déjà discuté de ça, toi et moi. Bon, il y avait un visage qui était différent, il y avait une couleur qui était différente, mais ses deux parents étaient blancs. Puis nous, on l'appelait comme un nom un peu méchant. Et pour finir par comprendre, au bout de 25-26 ans, quand il célébrait son anniversaire, sa mère et son père l'ont rencontré pour dire que son père, c'était pas le père biologique, mais c'était le père qui l'avait adopté. Et lui, il était pas au courant de ça. Donc pendant 25-26 ans, il était pas au courant que son père, c'était pas son père biologique, puis il m'avait mentionné que bon, ça a été un choc d'apprendre ça, alors que nous autres, en le regardant, on savait que visiblement, c'était pas son père, là. Mais pour lui, il disait, Yann, il y a toujours eu quelque chose en moi qui allait pas. C'est comme si, quand on m'a appris que mon père, c'était pas mon père biologique, c'est comme si j'avais compris ce qui allait pas en moi depuis autant d'années. C'est comme si le cerveau se souvenait de quelque chose que lui, personnellement, ne s'en souvenait pas, qui avait été abandonné par son propre père.
Oui, puis je te dirais que j'ai déjà accompagné en clinique un jeune garçon qui, lui, savait très bien qu'il avait été adopté par ses parents adoptifs, mais qui avait la couleur noire, alors que ses frères et sœurs adoptifs étaient de couleur blanche. Et quand il se dessinait en blanc. Donc, comme si c'était une personne blanche, il était incapable de tolérer le fait que sa couleur de peau était différente.
Ah, oui.
Et ça l'amenait justement, alors que lui, il était au conscient de ça, mais il était dans un environnement beaucoup trop québéco-québécois, d'accord, dans là où il était. Et même s'il n'y avait aucun trait de racisme autour de lui, ça restait quand même que l'image qu'il projetait faisait en sorte que lui voulait se considérer comme étant une personne à la peau blanche et pas une personne à la peau colorée. Et ça faisait partie du travail qu'on a fait ensemble, de l'aider à s'accepter dans ce qu'il était. Et alors que, par exemple, l'exemple que tu viens de donner par rapport au monsieur qui l'apprend seulement vers 25-26 ans, mais on a ça dans tous les secrets de famille où on a des personnes qui sont au courant de quelque chose, même si ce n'est peut-être pas nécessairement toujours le même type de secret, mais les secrets de famille font partie d'ailleurs de la violence éducative, sont reconnus comme étant de la violence éducative, donc ce qui vient perturber le développement de la personnalité de l'individu.
Parce que là, il y a comme deux agressions. La première, on t'apprend que ton père, c'est pas ton père biologique, mais c'est celui qui t'a adopté. Anyway, tu l'aimes, tu peux pas rien changer à l'amour. Mais ces gens-là ont conservé un secret pendant 25 ans. Donc, tu peux considérer ça comme une trahison aussi, Joël.
Peut-être, mais peut-être que bon, ça dépend toujours aussi qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille-là. Pourquoi est-ce que cet enfant est né d'une union non qui ne s'est pas continuée en tout cas. Mais en même temps, il y a un beau message d'amour. Tu sais, c'est quelque part, je l'ai eu avec ma conjointe. Elle venait avec un package deal de jumeaux jumelles de 3 ans à l'époque. Et j'ai toujours dit aux enfants, tu sais, je vous ai choisi comme j'ai choisi votre maman. Il y a un beau message d'amour quand on adopte quelqu'un.
Exact.
J'imagine que tu as vécu déjà la même chose aussi quand on est en contact avec des enfants qui font partie de notre vie, même si ça vient d'un premier mariage ou d'un premier couple avant nous, mais ça reste que c'est un beau message de dire « Hey, je t'ai choisi, toi ».
Ouais. Quand on est adolescent, bon, il y a peut-être des traits narcissiques là, à l'adolescence. La témérité, est-ce que c'est un trait de narcissique?
Mais parfois, oui, parce que parfois, tu sais, quand tantôt je parlais du syndrome de la toute-puissance infantile, c'est de ne pas se rendre nécessairement compte des dangers qu'on prend. Quand, par exemple, tu as un jeune qui est sur une chaise, une remontée mécanique, et qui saute avant d'arriver au point de descente normal, il prend un risque. Oui, il ne se rend pas compte qu'il y a un danger, mais il se croit aussi surpuissant parce qu'il croit qu'il est capable de faire ça. Et malheureusement, ça a déjà tué certains adolescents sur les pentes du Québec parce qu'ils avaient pris de tels risques. Donc oui, le syndrome de la toute-puissance infantile est présent chez les ados et nous devons les éveiller à éviter d'être trop téméraires. Tu as parfois des jeunes adultes aussi encore, je ne sais pas si tu as suivi l'actualité européenne, tu as en fait un footballeur, un joueur de soccer international portugais reconnu comme un des meilleurs actuellement, qui s'est tué hier en Lamborghini parce qu'il roulait beaucoup trop vite sur une autoroute.
Ouais.
Donc, il avait 24-25 ans et encore ce côté « je suis surpuissant, il ne m'arrivera rien » et quelque part, ça fait partie de la normalité de l'adolescence et du début de l'âge adulte parce que la partie préfrontale de notre cerveau, qui est la partie la plus humaine, n'est pas encore suffisamment mature pour tempérer des pulsions parfois autodestructrices et ça peut amener en fait nos adolescents à prendre des risques qui sont inutiles.
À partir de quand on peut dire que quelqu'un a un trouble de la personnalité narcissique? C'est quoi les éléments qui peuvent nous permettre de déceler ça chez les individus? Ou même un individu qui t'écoute, Joël Monzé, puis qui dit « Tabarouette, c'est un docteur en neurosciences qui me parle de ça. Les traits qui me parlent, ça correspond à moi. » À partir de quel moment on peut penser qu'on peut avoir un trouble de personnalité narcissique?
En fait, c'est la même chose que pour tous les troubles de personnalité. Premièrement, on ne devrait pas les distinguer avant 20-25 ans, d'accord? Parce que normalement, la personne est en développement, donc on fait plein de gaffes quand on est ado, puis c'est normal, ça fait partie de notre développement. Quand on va parler d'un trouble de personnalité, eh bien, ça veut dire que la seule et unique manière de réagir, c'est toujours la même. Autrement dit, si les auditeurs et vous deux et moi, on va voir sur Internet la définition de chacun des troubles, on va se retrouver dans 5-6 troubles différents et c'est normal. Ça veut dire qu'on est en santé.
Ouais, c'est important
de le
dire.
Parce qu'on a plein de manières, exactement, de manière de réagir. On est en contact avec notre amoureuse, on va peut-être avoir un petit côté histrionique, donc un côté très séducteur. Mais si je n'ai que la partie histrionique tout le temps, je vais avoir des difficultés à gérer ma sexualité en présence d'autrui.
J'ai été en couple pendant 5 ans avec une femme qui faisait son bac en psychologie. Par la suite, elle a fait son doctorat, puis j'avais le DSM à la maison. Puis le DSM, c'est la bible des psychologues, là, les maladies,
ah oui,
des maladies mentales et tout ça. Puis là, j'espère que Pascal n'écoute pas et elle fait d'autres choses. Mais je regardais les maladies puis la description. Puis on dirait que j'avais le dictionnaire au complet comme problématique, Joël. C'est-tu normal de se retrouver à certains endroits dans ces maladies?
Oui, il est honnête, pareil. Hein?
Oui, mais c'est une preuve de santé mentale parce que c'est facile.
Voilà.
Et c'est d'ailleurs, écoute, Yannick,
attention,
qui m'a déjà interviewé souvent les enjeux de TDAH.
Le doigt d'honneur qu'il me fait, Joël, on pourrait traduire ça comment là, en ce moment dans la situation?
Une petite réaction narcissique. Mais c'est normal s'il y a d'autres moments où il réagit autrement. Là, Yannick, il a chaud.
C'est pas épinglé, là.
Mais donc, en fait, c'est ça, c'est que si la manière dont je réagis, en fait, mettons que je dis une bêtise pendant une entrevue ou je ne fais peut-être pas la meilleure des conférences que je peux, je vais être furieux si quelqu'un dit quelque chose de croche sur moi, c'est certain que je vais réagir dans une situation pareille, mais généralement, ça va m'amener à être plus performant la fois prochaine, d'accord? Et c'est un espace critique et en même temps, c'est parce que quand je fais mon travail, j'ai envie d'être efficace, j'ai envie d'être efficient, j'ai envie d'être apprécié, c'est normal. L'aspect problématique, c'est si je ne suis pas capable de tolérer que quelqu'un se moque de moi, si je ne suis pas capable de tolérer un message sur Facebook qui serait éventuellement pas nécessairement en mon avantage. Si je suis incapable de tolérer une remarque d'un ami, d'une amie, d'un client, de quelqu'un que je croise, et que là, je commence en fait à réagir et à vouloir lui prouver que je suis meilleur que tout. Là, on tombe peut-être plus dans le groupe de personnalité.
Oui, puis les gros traits, là, je vais te poser cette question-là en premier. Est-ce que quelqu'un de narcissique le sait?
Souvent, c'est un des problèmes du narcissique, c'est que souvent le problème, c'est les autres, c'est pas lui.
Ah, voilà. Donc, il ne le sait pas.
Et mais en fait, dans presque tous les troubles de personnalité, tu as une déconnexion par rapport à la réalité. D'accord? Donc, souvent, la personne, elle se construit un personnage, d'accord, qui va correspondre à ses désirs, à ses envies, à l'image que la personne veut avoir, et pour une manière de se protéger, parce que la réalité fait trop mal.
Il y a des paliers. Il y a des paliers aussi, Joël, là, dans le sens où il y a une personne qui peut avoir des traits narcissiques, il y a une personne qui peut être narcissique, il y a des pervers narcissiques, il y a des paliers.
Oui,
là.
Exactement.
Donc, il y en a qui reconnaissent par thérapie ou par commentaire de d'autres gens qu'ils estiment autour d'eux, qui sont capables d'identifier, qui ont des traits, versus une personne qui sera identifiée comme étant narcissique et surtout les pervers ou les perverses narcissiques.
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, quelque part, quand tu disais tantôt les paliers, comme je disais, on a tous des blessures narcissiques et parfois on peut réagir, donc on peut fonctionner en narcissique. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement une personne atteinte d'un trouble de personnalité narcissique. Et parfois, quand on voit certaines descriptions sur les réseaux sociaux, il y en a qui beurrent épais d'ailleurs dans ces définitions-là parce que c'est beaucoup trop facile de reconnaître son voisin, mais on ne se voit pas nous-mêmes dans certains de nos comportements. Parce que juste déjà de poster ça sur Internet, c'est déjà une trace que nous-mêmes, on a peut-être un questionnement à avoir par rapport à notre propre narcissisme, parce qu'on voit l'erreur chez les autres et pas éventuellement la poutre qui est dans notre œil. Tu sais. Donc, quelque part, il faut faire attention. Puis, dans les paliers en question, il faut savoir qu'il va y avoir une montée au départ. C'est que plus la personne, elle arrive à se faire apprécier de par son comportement, et plus ça va à ce moment-là être évident. Tu vas avoir ça éventuellement chez des personnes qui vont faire des formations et qui vont obtenir des emplois qui sont très d'une grande notoriété. Et on va voir même que, parfois que la culture narcissique est déjà inscrite dans la formation universitaire. Vous êtes différent, vous êtes meilleur, vous êtes X, vous êtes ça, vous êtes les élus de la société éventuellement. Et on va voir ça dans les religions aussi, d'être l'impression d'être un peuple élu. Donc, il n'y a que ma religion qui est importante et j'ai le droit de tuer les autres personnes si elles ne sont pas de ma religion. C'est une montée narcissique qui devient éventuellement extrêmement dangereuse.
Est-ce qu'il y a des... j'ai peur de tes réponses, Joël Mosé.
Pourquoi, Yannick?
Y a-t-il des professions où on retrouve le plus de narcissiques, hommes, femmes?
Je te dirais qu'actuellement, j'aurais envie de dire que beaucoup de professions sont à risque à cause de la médiatisation.
Ouais.
D'accord. Et c'est vraiment l'aspect de la médiatisation. Et c'est ça qui a changé peut-être avec l'arrivée des réseaux sociaux.
Ouais.
C'est que l'émergence des coachs, l'émergence des influenceurs, l'hyper-notoriété de certains médecins à la télévision. Regarde ce qu'on a eu pendant la pandémie, le nombre de fois qu'on a eu des médecins qui parfois disaient des choses qui n'avaient absolument aucune allure. Comment dire, tellement c'était ridicule ce qu'ils vous disent. Mais parce qu'ils étaient médecins, on allait l'accepter. On peut retrouver ça éventuellement chez des experts qui s'inventent experts aussi parfois. Donc, ça fait partie de la normalité, mais tant qu'il n'y a pas de méchanceté, tant qu'il n'y a pas de rapport à l'autre qui est déphasé, on est encore dans une phase qui est acceptable, qui est tolérable en tant que telle. L'aspect problématique, tantôt tu parlais de M. Rozon, je ne me prononcerai pas par rapport à ce qui se passe à cause du procès présentement. Mm-hmm. J'aurais envie juste de rappeler qu'il n'a pas été reconnu criminellement responsable. Donc, à partir de ce moment-là, ça fait en sorte que ça lui a garanti une protection de son image qui répand aujourd'hui. Mais je me souviens d'une entrevue qui avait été faite par Paul Arcand, d'une autre personnalité politique et qui parlait justement, je crois qu'à ce moment-là, M. Rozon avait tenté d'aider de sauver le Grand Prix de Formule 1 à Montréal à l'époque. Et la personne qui parlait de Gilbert Rozon disait, c'est un gars, il défonce une porte sans aucun problème. Si la porte est fermée, ben, il va rentrer par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, il va rentrer par la cheminée. Si la cheminée est bloquée, il va trouver une craque dans le mur pour être capable de pouvoir rentrer. Et donc, il est vraiment notre grand ambassadeur pour aller parler avec Bernier Ecclestone et faire en sorte qu'on maintienne notre Grand Prix. Donc, pendant longtemps, on a valorisé le comportement du bonhomme. Et c'est certain que là, la glorification progressive et tout ça, il y a un moment donné où tu veux protéger ton image. Tu ne veux pas que ton image soit écorchée. Et là, on commence à rentrer dans des environnements ou dans des comportements qui pourraient être problématiques. L'aspect aussi problématique, c'est que l'autre n'est plus une personne, c'est un objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui a un trouble de personnalité narcissique, s'il spotte une femme ou un homme de son goût, ce n'est plus une personne qu'il tente de séduire, c'est une personne qu'il tente de posséder,
ouais,
comme un objet. Ouais. C'est un trophée. Et à partir du moment où c'est un trophée, l'autre n'existe pas, c'est un objet et j'ai tous les droits. Et c'est là que le risque de bascule vers des comportements totalement inacceptables est très élevé.
Et ça choque beaucoup, ce type de personnalité-là.
Mais je me suis souvent senti ça comme un trophée pour les femmes qui m'accompagnaient. Hein.
Joël Monzé, on se parlait il y a deux jours justement de ce sujet-là parce que l'actualité nous donne toutes sortes de types, en fait, de candidats à avoir la discussion qu'on a aujourd'hui. Quand on se parlait, Joël, Je t'ai demandé, puis on sort quand même du cas spécifique de Roson, mais moi, il y a quelque chose qui me fascinait, c'est on ne sait pas tout ce qui s'est passé, puis ça a toujours été la parole de l'un contre la parole de l'autre. On a vu ça souvent dans des dossiers médiatisés en cours, avec des présumées victimes, avec des présumés violeurs et autres. Dans le cas de Gilbert Roson, je le nomme, il a l'air sûr de lui, il n'a jamais rien fait, c'est pas lui, c'était consentant, etc. C'est pas la première fois qu'on voit ce type de parure-là en cours. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ce ne l'est pas. C'est le droit qui va décider à la fin, malheureusement ou heureusement, ce qui va se passer. Mais comment est-ce qu'un individu, si jamais c'est vrai, peut vivre autant dans le déni et se défendre aussi fort de choses qu'il a produit ou fait?
Mais écoute, je répondrai en fait en deux niveaux. Le premier, si on prend le premier procès, il y a eu une personne qui a été amenée par le DCPC pour porter éventuellement des accusations et il n'a pas été condamné lors de ce procès. Mais il y avait 27 autres dossiers. Si j'ai bien compris, les courageuses font partie des 27 dossiers qui n'ont pas été considérés par les procureurs de la couronne. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une réaction qui est peut-être un peu logique, c'est que si je reconnais ma culpabilité dans le procès civil, non seulement je vais le payer très cher en termes d'argent, mais je donne peut-être des munitions pour qu'il y ait un autre procès. On ne peut pas revenir sur le premier procès parce que on ne peut pas juger deux fois la même personne pour le même crime, mais il y a 27 procès qui sont en suspens et qui n'étaient pas assez clairs pour que la couronne ose porter des accusations. Donc, on s'entend que, est-ce que M. Roson a la possibilité de dire autre chose publiquement? Je ne crois pas. Est-ce que la personne devrait faire profil bas? Je crois que oui, mais c'est là que on rentre dans les enjeux narcissiques. Et donc, si une personne, et puis là, on se détache de M. Roson, si une personne, justement, ne veut pas qu'on touche à son image et se présente devant monsieur, madame, tout le monde comme étant une personne hors de tout doute extraordinaire, c'est difficile de reconnaître, d'avoir assez d'humilité pour reconnaître qu'on a fait une gaffe. Tu sais, déjà, dans nos couples ou dans nos vies de travail, on a de la difficulté à reconnaître qu'on fait une erreur, à demander pardon à l'autre. Alors, imaginez quand la manière dont votre cerveau s'est construit, on s'est construit une fausse identité qu'on essaie de défendre coûte que coûte. Si tu touche à cette identité, je meurs. Donc, je vais me battre jusqu'au bout pour protéger cette image à laquelle tu as cru pendant des années, des années, des années. C'est une question de survie mentale, même si d'un point de vue humain, c'est atroce.
C'est quoi les traits principaux des pervers narcissiques? Est-ce que quand on est un pervers narcissique, avec consultation, on peut s'en rendre compte, l'admettre, puis est-ce qu'on peut faire des efforts quand on est un pervers narcissique pour essayer d'être un peu plus normal?
Mais en fait, tout trouble de la personnalité peut réverser si la personne prend les moyens pour pouvoir le faire. Mais il y a des gens qui sont amenés à avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, qui sont peut-être même à la tête d'un pays. Ils sont allés beaucoup trop loin, en fait, dans leur manière de se présenter à autrui. Le gain qu'ils en ont est tellement phénoménal qu'ils ne voudront jamais reconnaître qu'ils sont qu'ils ont un problème. Et en même temps, tu pourrais avoir, tu sais, par exemple, tantôt on parlait du trouble histrionique, donc c'est une manière de vouloir séduire les autres, d'être très, très théâtral.
Ouais.
Tu peux avoir un chanteur ou une chanteuse qui est très provocant sur la scène, qui peut embrasser l'un ou l'autre en partant du principe qu'il y a un accord des deux. D'accord, je pense entre autres à Madonna et Miley Cyrus, quand elles se sont embrassées pour provoquer, pour faire vendre leur disque. Si elles sont histrioniques uniquement sur la scène, mais que dans la vie de tous les jours, c'est des bonnes sœurs, d'accord? Ben, veut pas, c'est pas un trouble de personnalité.
C'est du marketing.
Et là, on peut travailler, c'est du marketing, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, ouais. Surtout quand il s'agit d'une personnalité publique, parce que on ne voit qu'un aspect des choses. On ne voit pas l'homme ou la femme au quotidien.
Après, on peut
avec
critiquer
son environnement, sa famille, et ainsi de suite.
On peut critiquer la morale, l'éthique de faire les choses derrière.
Oui.
Pour un pervers, un narcissique ou une personne, une femme ou un homme qui l'est, ce qu'on m'avait déjà expliqué dans le passé en psychologie, c'est que ouais, ça pourrait se traiter, mais en même temps, Pas vraiment, parce que c'est des gens qui vont jamais reconnaître qu'ils ont besoin d'aide. Jamais reconnaître qu'ils vont vouloir aller en traitement ou autre.
Ouais.
Des fois, tu vas avoir des glitches de conscience, de lucidité, mais rapidement, ça va retomber parce que ça va, ce serait de démontrer une faiblesse.
Mais je comprends pas, Joël, parce que le pervers narcissique, c'est pas nécessairement quelqu'un de cave. Là. Ça peut être quelqu'un d'extrêmement intelligent. Oui. À partir du moment où tu es intelligent, puis tu entends Joël Monzé parler des pervers narcissiques, tu te reconnais. Tu sais, la dernière des choses que tu veux faire en tant qu'être humain, c'est de faire du mal aux gens qui t'entourent, faire du mal à ta femme, ton chum, faire du mal à tes enfants parce que t'es un pervers narcissique, faire du mal à tes collègues, faire du mal à tes amis.
La première chose qu'ils veulent pas, Yannick, c'est se faire du mal à eux.
Tes enfants, oui, je comprends, mais je veux dire, moi, personnellement, si je me rends compte qu'avec ce que tu me dis, je suis un pervers narcissique, je m'en vais chez le docteur en psychologie puis je dis... Je crois que je suis un pervers narcissique. Pouvez-vous me confirmer que j'en suis un? Et si j'en suis un, est-ce que vous pouvez m'aider justement à tenter de retrouver la bonne trail?
Mais tu dois pas l'être.
Mais je crois qu'une personne qui aurait une démarche comme celle-là, il y a déjà un bon espoir de réussite de la psychothérapie si le thérapeute est bon. Parce qu'il y a un travail spécifique dans des situations pareilles, parce que souvent, la personne qui sont rendues aussi loin, on ne leur a jamais donné de limites. Ils ne connaissent pas les limites. Donc, le thérapeute va devoir travailler énormément les limites et le cadre thérapeutique pour s'assurer qu'on ne transgresse jamais les limites qui ont été fixées par le thérapeute. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour faire du pouce sur ce que tu disais, Pascal, mais ça va dans le même sens que ce que Yannick disait, c'est qu'il y a parfois des événements dans la vie qui font en sorte qu'il y a une perte de travail, il y a un décès d'une personne proche, il y a une rupture amoureuse. Il y a aussi des fenêtres d'opportunité où si la personne se rend compte qu'elle a peut-être pas agi d'une manière idéale, il y a quand même la possibilité de pouvoir arriver à se transformer en tant que tel, jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle des bascules de l'esprit, où là, on tombe dans des comportements complètement criminels. Et là, à ce moment-là, les bascules de l'esprit sont telles qu'on ne peut plus revenir en arrière parce qu'il y a des zones du cerveau qui sont totalement détruites. Et donc, à ce moment-là, la personne, on peut peut-être lui amener une morale, mais il n'y aura jamais plus d'éthique.
Les zones du cerveau sont détruites?
Oui, en fait, il y a deux zones en fait, du cerveau qui vont être détruites. Il y a une zone dans l'orbitofrontal droit qui permet la résonance émotionnelle. Donc, souvent, les pervers vont avoir la difficulté à... en fait, ils vont avoir une très bonne lecture de l'émotion de l'autre, mais ça ne leur fera aucun impact. Donc, s'ils font de la peine à quelqu'un, eux n'en auront absolument aucun impact émotionnel. Au contraire, ils pourraient même y trouver du plaisir. D'accord, plaisir de puissance, plaisir de domination, plaisir de faire souffrir l'autre, d'accord, parce que ça allait chercher une des sensations très particulières. Il va y avoir une libération de dopamine massive dans la partie gauche du cerveau qui va leur donner un peu comme une ligne de coke, une puissance à ce moment-là qu'ils vont essayer de rechercher. Et l'autre partie du cerveau qui est détruite, c'est une partie qu'on appelle les amygdales. Donc en fait, on a deux paires d'amygdales, une dans le fond de la bouche qui a un rôle immunitaire, mais on a une double paire, en fait une paire plutôt dans le cerveau où elles ont un rôle de protection pour nous-mêmes. Et c'est là, par exemple, quand on a fait une chute à vélo, qu'on s'est blessé, qu'on a eu un échec à l'école, qu'on a eu une mauvaise situation, on est tombé et ainsi de suite. C'est toutes nos mémoires où on s'est fait mal et ça nous amène à accentuer nos mécanismes de défense. À la base, c'est pour se protéger. Mais chez les personnes qui vont justement basculer dans le trouble antisocial, eh bien, à ce moment-là, elles sont mortes. Donc, il n'y a plus de sentiment de survie pour soi ou pour l'espèce. Et c'est là qu'on voit à quel point on peut aller très, 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 très loin dans la médiocrité. Et je prendrai un exemple, M. Lépine, quand... il a constaté qu'il ne pouvait pas aller faire Polytechnique.
Marc Lépine, Camille Garbi.
Et c'était pas de sa faute à lui, parce que lui était parfait. Donc, c'était de la faute du fait qu'on acceptait des femmes à Polytechnique. Donc, pour lui, je vais aller tuer quelques femmes à l'école, comme ça va me permettre de pouvoir rentrer éventuellement après. Donc, il n'y a plus aucune considération de l'autre, aucune part de responsabilité qu'il a, et il n'a pas de remords, il n'a aucune idée même de vouloir survivre. Et puis, à un moment donné, si je me souviens bien, il s'est suicidé, parce que la vie n'a plus de sens.
Ouais.
Voir ça chez beaucoup de tueurs en série.
La folie d'Hitler, est-ce que ça en était une dérive narcissique?
Oui, complètement. Et elle est très bien expliquée dans un livre qui a, dans un film, pardon, je pense que c'est tiré aussi d'un livre, dans un film qu'on appelle L'éveil du diable. Si les gens ont l'occasion de voir, c'est très, très intéressant. Parce que probablement que Hitler, au départ, c'était un petit garçon comme vous et moi, donc inoffensif. Mais le degré de violence de son père est extrêmement torride. Il est enfermé dans des armoires, il est battu, sa mère aussi, et ainsi de suite. Donc, il vit une enfance de violence extrêmement grande. Il va être amené comme soldat à être dans les tranchées pendant la guerre 14-18, d'accord? Et là, il y a une bombe qui tombe à l'endroit où il était quelques instants avant, et il ressort de là, « Waouh, tu sais, je suis un élu, j'ai été sauvé par Dieu ». Puis la guerre est finie, il n'arrive pas à se faire inscrire dans une école d'art, c'est pas de sa faute, c'est de la faute des Juifs, il n'a pas d'argent, c'est de la faute des Juifs. C'est une rhétorique qui était très présente en Allemagne de toute façon à ce moment-là, et on voit que petit à petit, il y a de plus en plus de bascules, et puis il est amené en fait à la gloire, il est élu après l'incendie du Reichstag, et donc on voit en fait que chacune des étapes de la progression du trouble narcissique l'a amené à avoir un comportement probablement aussi délirant. Et il faut savoir que l'industrie allemande de l'époque était derrière Hitler. Si Hitler s'est pas fait tout seul, il a été programmé pour ça, et c'est parce qu'il répondait à des besoins aux alentours de d'un certain nombre de personnes qui voulaient que ça aille là.
Est-ce que le, puis ça va être la dernière question, Joël, est-ce que le pervers narcissique a des traits de psychopathe? Est-ce que ça peut avoir un lien?
Oui, il y a des liens au fur et à mesure que les bascules de l'esprit vont se faire, parce que chez la personnalité psychopathe, il y a une connaissance en fait de ce que l'autre vit, mais il y a un plaisir de le faire souffrir. Cela dit, tous les psychopathes ne sont pas nécessairement dangereux, dans le sens que un chirurgien qui a ce type de configuration nerveuse ne me dérange pas, il ferait une belle job. D'accord? Le problème, c'est que je voudrais pas être son ami, parce que ça va être désagréable. Mais comme chirurgien, il peut faire une belle job, donc c'est pas parce que, éventuellement, on a certains types de comportements que nécessairement, ça va mal aller. C'est que si beaucoup de choses vont mal, à ce moment-là, ben, ça peut aller jusqu'à tuer ses enfants, ou tuer sa conjointe, ou tuer, quelqu'un, ou le détruire psychologiquement, parce que tu as aussi le côté plus féminin, où ça va être de la violence psychologique, plutôt que de la violence physique ou sexuelle.
Docteur Joël Mauzé, un gros merci pour tous ces éclaircissements sur le narcissisme, sur le pervers narcissique. Pour les gens qui voudront réécouter l'entrevue, ce sera disponible sur notre application Boulevard ou encore sur notre site internet blvd.fm. Merci Joël.
Merci.
Avec grand plaisir.
Bye-bye. Joël Mauzé, docteur en neurosciences. Es-tu intéressant ce gars-là?
Je l'adore.
Bon, une fois de temps en temps, on le reçoit dans Mars au soir. Donc écoutez Mars au soir, ne pas rater ça. Il y a plein, Joël aussi fait des conférences, Joël, il fait des livres pour l'éducation des enfants aussi, c'est franchement intéressant tout ce qu'il fait, joelmonzé.com ou tapez Joël Mauzé là, sur Google, vous allez retrouver tout ce qui a trait à Joël. Midi 36, on fait une courte pause, on vient.
Marceau le midi. Le garage à Dan. Ben Caron a fait bien du ménage pour vous accueillir dans son garage tous les vendredis 18h. Il vous pousse les plus grosses tonneras qui se démoderont jamais. Un peu comme lui. Vous allez peut-être même entendre du vieux stock qu'on joue pas ailleurs dans la programmation. Voici la toute jukebox que Dan vous tournera ce soir. Le garage à Dan. Tous les vendredis 18h.
Boulevard 102.1.
Alors que vous partiez en vacances,